Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Frédéric Muller, une femme courageuse atteinte de la maladie de Charcot, qui a pris la décision de demander l'aide active à mourir en Belgique. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui, Frédéric.
Je dirais que c'est normal parce que c'est une cause qui me tient à cœur. En plus, le gouvernement est en train de travailler sur une loi pour permettre justement d'accompagner les malades durement touchés pour leur fin de vie. Et je sais, pour moi, c'est trop tard maintenant, c'est évident. Mais si mon témoignage peut juste amener une petite pierre à l'édifice, ce serait bien, c'est tout.
Oui, c'est ce qui vous fait que vous êtes là aujourd'hui, qui vous amène chez nous aujourd'hui, oui. C'est de témoigner, oui. Et de, que les gens prennent conscience aussi de comment ça se passe.
Oui, en fait, c'est vrai que pour moi, ce qui est important, c'est expliquer pourquoi j'ai pris cette décision. Ça peut paraître paradoxal parce qu'en plus, je suis infirmière de formation.
Vous êtes infirmière, votre mari est chirurgien.
Exactement, mon mari est chirurgien. Et on se dit que souvent, parmi les soignants, il y a une opposition quant au fait d'aider finalement les patients incurables à partir dignement. Et vous voyez que ce n'est pas tout à fait vrai. Les avis sont extrêmement partagés dans le monde des soignants. Et j'en suis la preuve.
Oui. Alors, je vais faire un petit rappel de la loi Leonetti, justement, puisque telle que je l'ai trouvée, donc la loi Leonetti a renforcé le droit d'accès aux soins palliatifs mis en place dans la loi du 9 juin 99. Elle met à disposition les directives anticipées du patient, et la désignation de la personne de confiance, pour permettre normalement à tout un chacun d'exprimer sa volonté.
Oui.
Elle a clarifié les conditions de l'arrêt des traitements au titre du refus de l'obstination déraisonnable, en réaffirmant le droit du malade à l'arrêt de tout traitement et à bénéficier de la sédation profonde et continue jusqu'au décès lorsque le diagnostic vital est engagé à court terme, en plaçant normalement le patient au cœur du processus décisionnel, donc en lui permettant de rendre ses directives anticipées contraignantes pour le médecin.
Alors,
c'est là qu'il y a un hiatus pour vous.
C'est là qu'il y a des choses qui me posent problème. Premièrement, nous n'avons pas assez de services de soins palliatifs en France. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand une personne accède aux soins palliatifs, c'est qu'en général, il est vraiment au bout de sa vie et qu'il est là dans un état de souffrance physique et morale très, très dur à supporter, et pour le patient et pour la famille. Ensuite, beaucoup de patients ne savent pas qu'il est nécessaire de laisser une trace de toutes ces directives auprès des médecins, auprès de sa famille, de nommer la personne de confiance et de bien expliquer clairement, quand il en est encore capable, ce qu'il souhaite, à savoir s'il ne souhaite pas d'acharnement thérapeutique et d'autre part s'il souhaite une sédation profonde. Maintenant, on ne va pas confondre sédation profonde et euthanasie active ou suicide assisté, ça n'a rien à voir. La sédation profonde, c'est juste que le malade demande l'arrêt de tout acharnement thérapeutique. Et l'acharnement thérapeutique, quand on est vraiment en fin de vie, se résume à tout arrêter et à ne laisser souvent en place qu'une petite perfusion où on hydrate légèrement le patient.
D'accord.
Et surtout où on va lui donner les médicaments type morphinique, opiacés, qui vont permettre finalement au patient de ne plus avoir conscience de tout ce qui se passe autour de lui. Et ce qui est terrible dans ce type de mort, c'est que finalement ça peut durer quelques heures comme ça peut durer des jours et des jours. Mmh. Et ça, d'une part, on ne sait pas ce que le patient ressent et pense, puisque finalement il est endormi, enfin il ne manifeste plus rien. Mais pour la famille, vous vous rendez compte la souffrance que ça peut être pour une famille d'être là à attendre finalement que son proche finisse par partir. Et puis, il faut savoir aussi, ce n'est pas si simple de demander une sédation profonde parce qu'il faut que l'ensemble des médecins du service de soins palliatifs se réunissent et donnent tous leur accord pour accepter de donner ça aux patients. Et souvent, c'est quand on est vraiment à la dernière extrémité de la vie du patient. Et ça veut dire qu'il a fallu qu'il endure jusque-là des souffrances, encore une fois, morales et physiques. Il n'y a pas que de physique, il y a la souffrance morale aussi.
Voilà. Donc finalement, ce n'est pas contraignant pour le médecin, c'est ce que vous nous dites. Alors déjà, la procédure n'est pas...
Mais la procédure, elle est tout à fait bancale. Mmh. Et puis encore une fois, ce n'est pas parce que on va autoriser une euthanasie active en France qu'on va mettre le couteau sous la gorge des médecins en leur disant pratiquez ça. Pas du tout. Chaque médecin est libre et chaque infirmière est libre de pratiquer cela. Mais pourquoi ne pas accepter de le faire ouvertement et de laisser finalement le soin à certains médecins, certains personnels paramédicaux, de le faire sous le manteau, de peur d'être rattrapé par la justice et condamné. Parce que ne croyez pas, ça s'est toujours pratiqué, toujours, mais de façon évidemment incognito pour ne pas avoir de risque avec la justice. Alors finalement, c'est tellement, je dirais, bâtard, comme situation.
C'est beaucoup d'hypocrisie.
C'est finalement énormément d'hypocrisie, énormément. Mmh. Et à partir du moment où on a un diagnostic qui est posé, à partir du moment où on sait que la médecine ne pourra plus rien pour le patient, que c'est incurable, qu'il n'y a pas de traitement possible, qu'il va s'en suivre forcément des douleurs, des contraintes telles pour le patient qu'il faut laisser ceux qui le souhaitent. Encore une fois, moi j'ai le respect de tous, c'est-à-dire que quelqu'un qui est fortement croyant, je suis croyante également, mais qui est tellement croyant qu'il ne veut pas aller à l'encontre de sa religion. Et on sait que toutes les religions monothéistes disent qu'on nous a donné la vie pour la vivre coûte que coûte, sans avoir le droit de l'interrompre. Il faut laisser faire le cours des choses. Et d'ailleurs, il est dit que la vie nous donnera des épreuves que nous sommes capables de supporter. Pas de surmonter, de supporter. Eh bien, malheureusement, je suis croyante, mais je ne suis pas capable de supporter la dernière épreuve qu'on vient de m'infliger. J'en suis incapable. Voilà. D'où mon choix.
Oui, et c'est pourquoi, donc, Frédéric, je le rappelle, hein, je l'ai dit en début d'émission, vous avez choisi de vous rendre en Belgique. Alors, vous êtes suivi déjà actuellement. Dites-moi un petit peu comment ça se passe.
Ce qui s'est passé, c'est que quand on a évoqué pour la première fois le diagnostic donc de SLA ou maladie de Charcot, j'ai eu l'occasion, et je dis il n'y a pas de hasard dans la vie, j'ai eu l'occasion de voir une émission de Marina Carrère d'Encausse à la télé où il y avait un débat et un film sur la fin de vie. Et où justement elle faisait ça extrêmement bien en mettant en parallèle et un service de soins palliatifs et un appartement en Suisse où il pratiquait le suicide assisté et un endroit au Québec où il pratique également l'euthanasie active qui est autorisée et enfin un service hospitalier à Liège où il pratique l'euthanasie active. Et je dois dire que j'ai écouté avec attention le débat qui a suivi le film. J'ai regardé le film avec attention et ma décision était prise. C'est-à-dire que dès le lendemain, j'ai cherché les coordonnées de ce service à Liège et j'ai appelé. Et là, tous les médecins et tous les patients souhaiteraient avoir une secrétaire comme la personne qui m'a répondu ce jour-là. Je pense qu'elles sont très habituées à avoir des appels comme le mien. Et donc, c'était une jeune femme avec une écoute, une douceur, une empathie extraordinaire. Elle m'a donc donné un rendez-vous. Et mon époux m'a emmenée à ce rendez-vous au mois de décembre. J'avais donc constitué tout mon dossier médical. Le professeur Dama a bien sûr regardé mon dossier et dès qu'il a vu le diagnostic, il m'a dit, vous savez, avec un diagnostic pareil, il dit, je ne peux pas refuser. C'est évident. Parce qu'on sait que malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe rien pour l'instant, en tout cas rien en France, pour guérir cette maladie. Et ça m'a tellement, tellement soulagée qu'ils me disent « Je suis d'accord, je suis émue. » Pour moi, j'avais peur qu'il refuse. Et quand il m'a donné son accord, j'étais vraiment, vraiment soulagée de me dire, maintenant je suis tranquille, je peux aller au bout du chemin, parce que c'est moi qui vais décider finalement quand, mais je vais aller au bout du chemin que je juge supportable, voilà. Et quand ce sera le moment, je sais que c'est possible pour moi de partir dignement. Mes enfants, bien évidemment, étaient informés. Et pour des enfants, c'est toujours compliqué de dire à sa mère, c'est bien, t'as bien fait. Bon, la première réaction, c'est, maman, c'est pas possible, c'est trop tôt, il faut pas que tu penses à ça. Mais après avoir expliqué pourquoi je faisais ça, que en fait je voulais leur laisser l'image digne. Ils l'ont compris. Et du coup, ils sont d'accord avec ma décision. C'est-à-dire qu'ils me soutiennent. Je sais que c'est dur hein, pour eux, vraiment. En même temps, moi je vais avoir la chance, et je dis bien la chance, d'avoir une belle mort, une mort douce, parce que finalement je m'endors tranquillement. Mais je vais devoir les laisser sur le bord. Et vous savez, je ne suis pas du tout triste pour moi. Moi, maintenant, le diagnostic, il est digéré, il est accepté depuis belle lurette. La seule chose qui me rend triste, malheureusement, c'est de savoir que je vais devoir laisser mes enfants et mon mari. Voilà. Pour le reste, je suis tellement soulagée, vous ne pouvez pas imaginer. C'est fou. Mais après, une fois que j'ai eu ma première consultation, on doit avoir un deuxième avis d'un autre médecin. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et il faut que le deuxième médecin réalise également que vous pouvez en bénéficier, que votre état mental le permet. Il ne faut pas souffrir de démence, ce qui est logique. Il ne faut pas avoir la moindre contrainte morale ou physique. il ne faut pas souffrir d'une dépression. Alors, vous allez me dire, bah là, vous paraissez un peu déprimée. Ok. Alors, c'est sûr que je ne suis pas là à gambader, à rire. Et... Non, mais ce n'est pas une forme de dépression. C'est plus quand j'évoque vraiment mes enfants et mon mari. Parce que le reste, ça me... Comment dire ? Ça me touche plus. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ? Mmh. Et au contraire, je me dis, c'est presque égoïste hein, ce que je fais, mais au moins, je vais pouvoir avoir la main sur le cours de ma maladie. Et puis, il faut pas oublier que ce qui est rassurant, c'est que ça se pratique dans un service hospitalier. C'est un médecin qui pratique ça. Ça se fait pas en catimini. On me demande pas à moi de tourner la molette ou d'avaler un produit. J'ai la possibilité d'être entourée par les personnes que je souhaite. Donc, je pourrais leur dire au revoir correctement. Enfin, il y a tout un contexte qui fait que c'est un vrai soulagement. Et c'est égoïste parce que finalement, vous allez me dire, je n'accepte pas de souffrir. C'est vrai. C'est vrai.
Bon, c'est vraiment pas ce que je dirais, mais moi je vois ça aussi comme un cadeau que vous faites à vos enfants, à votre mari, de leur offrir cette possibilité de dire au revoir.
Oui, ce que je souhaite justement, c'est que tous les cinq, on puisse effectivement se dire au revoir correctement. Et c'est évident qu'il y aura, mais ça on ne peut pas faire autrement, il y aura forcément de la tristesse entre nous cinq, c'est logique. Mais il faudra penser au fait qu'on aura pu faire ça le mieux possible, on aura pu choisir le moment, parce que je ne vais pas attendre d'être au bout du bout pour y aller. Vous savez, déjà là, à l'heure actuelle, je me rends compte que mon souffle, ma respiration me joue vraiment des tours. Et le caractère que j'ai fait que j'ai toujours aimé donner une belle image de moi. Et je ne supporterais pas de donner l'image de quelqu'un de dégradé. Donc, encore à l'heure actuelle, quand je sais que je vais devoir rencontrer du monde, faire quelque chose où je dois parler, je me ménage en amont, c'est-à-dire que je reste beaucoup allongée, je prends de l'oxygène de plus en plus, je vais ensuite rencontrer des personnes que je dois rencontrer, ça me fait beaucoup de bien, parce que j'ai toujours aimé ça. Et d'ailleurs, je pense, et sans flagornerie aucune, je pense que j'aime les gens, tout simplement, c'est tout. Et après, une fois que je me retrouve chez moi, eh ben, qu'est-ce que je fais ? Je m'allonge et je reprends mon oxygène. Et ça, évidemment, les personnes avec qui je peux passer des moments, je ne veux pas leur montrer ce côté, entre guillemets, pas très agréable de ma vie. Je ne vais pas non plus parler, parce que ça n'a jamais été mon cas, je n'ai jamais passé mon temps à me plaindre. Je ne vais pas non plus parler des douleurs musculaires que je peux avoir, des contractures que j'ai tout le temps, de ma perte de force dans mes mains, dans mes jambes. Et tout ça, évidemment, je me rends compte que de jour en jour, je dis bien de jour en jour, la maladie prend de plus en plus le pas dans ma vie, de plus en plus. Et puis, il faut savoir que la seule notion que personne n'a, c'est le temps. Et le temps, avec cette maladie, eh ben, est subjectif, c'est-à-dire c'est selon chacun. Voilà.
Et je rappelle donc que si vous êtes là, Frédéric, aujourd'hui, c'est vraiment aussi pour que pour témoigner, bien sûr, et pour que les choses changent en France, pour que les gens n'aient pas à subir, cette pression de devoir aller à l'étranger.
Oui. Oui.
Ça implique beaucoup de...
Ça implique toute une organisation.
Mmh.
C'est vrai que moi, j'aurais quand même préféré pouvoir faire ça chez moi, en France, dans la ville où tu habites. Enfin, voilà, ne pas obliger, finalement, mon mari et mes enfants à devoir, en plus, m'accompagner en Belgique. Enfin, je veux dire, c'est encore une contrainte supplémentaire pour eux. Mmh. Ils n'ont pas besoin de ça. Et puis ensuite, il y a l'histoire de ramener aussi... la dépouille, hein.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est encore double peine pour eux. Enfin, je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne simplifie pas tout ça? En plus, il y a quand même une vraie demande de la part des malades. Hein. Et je sais que la maladie de Charcot est malheureusement une des maladies auto-immunes les plus fréquentes. Donc je suis loin d'être la seule à souffrir de cette maladie. Et puis il y a toutes les personnes qui souffrent de cancers généralisés épouvantables, de tumeurs au cerveau épouvantables. Enfin, je me dis, on a quand même malheureusement tellement de patients qui souhaiteraient pouvoir avoir un accès comme ça, avoir le choix. Et vous savez, c'est pas parce que vous dites, bon, ça y est, je fais les démarches, que forcément vous allez le faire. Vous avez des patients qui ont fait toutes les démarches et qui, au final, n'ont pas eu recours à ça parce que au dernier moment, ils n'ont pas jugé nécessaire, ou ça s'est passé autrement, ou voilà. Et puis, il faut aussi se dire que le fait de parler de la mort, ce n'est pas tabou, et ce n'est pas parce qu'on parle de la mort qu'elle va arriver là tout de suite.
Oui, voilà, on ne va pas mourir plus vite à cause de ça.
Non, non, non. Ouais. Il faut oser en parler. Et il faut oser programmer les choses, parler de ce qui nous attend avec notre famille. C'est une manière de les préparer aussi.
Mmh.
Évidemment, c'est sûr qu'on ne va pas parler de ça H24, hein, ça c'est évident. Hein.
Oui, bien sûr.
Parce que ce serait quand même un petit peu trop lourd. Mais de temps en temps, c'est bien de faire une petite pointe de rappel à mes enfants, à mon mari, en disant « Ne soyez pas inquiets, je m'accroche, hein, je fais tout ce que je peux pour m'accrocher. »
Oui, bien sûr.
Je me fixe des objectifs parce que là, à l'heure actuelle, je vis un peu au jour le jour quand même. Mais je me fixe des objectifs que j'essaye toujours d'atteindre. Et je leur dis, si à un moment donné, je me rends compte que non, là, ça devient compliqué, il ne faudra pas m'en vouloir. Ce n'est pas que j'aurai baissé les bras, c'est que ça sera devenu trop lourd pour moi. C'est ça, surtout.
Alors, vous le disiez au début que les pouvoirs publics étaient en train de revoir les choses en ce moment.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Lise Magnier travaille là-dessus avec un groupe de parlementaires. Parce que, vous savez que notre président Emmanuel Macron avait promis qu'il s'attaquerait justement à ce sujet. Et il avait d'ailleurs parlé des patients atteints de la maladie de Charcot pour qu'ils puissent bénéficier d'une loi qui puisse les aider à partir correctement et doucement. Et au final, pour l'instant, il n'a rien fait. Il n'a fait que reculer. Et là, il semblerait qu'on étudie à nouveau comment est-ce qu'on peut adapter une loi autre que celle de M. Leonetti, qui a déjà été revue en 2016, bon, pour dire que ça ne suffit toujours pas, ça ne convient pas, c'est tout. Et moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on a l'air là de s'orienter vers un suicide assisté. Et le suicide assisté, c'est compliqué dans la mesure où il faut que le patient
soit
encore en mesure,
oui,
lui, lui-même.
C'est lui qui...
De tourner la molette ou d'avaler le produit. Donc ça veut dire que le patient, s'il attend trop, il n'en est plus capable.
Oui, puis il faut avoir le comment, je sais pas comment dire ça,
il faut avoir
cette dernière
force mentale, je dirais, encore plus importante que quand on demande une euthanasie active. Parce que, je veux dire, il faut avoir la volonté soi-même de s'infliger, de prendre ce qui entraîne votre départ. Moi, je trouve que ça demande encore 10 fois plus de courage aux patients.
C'est extrêmement violent pour les patients.
Et puis même pour la famille.
Oui, bien sûr.
Pour la famille, de voir son proche pratiquer le geste qui entraîne son départ, c'est... Enfin, d'ailleurs, tout est dit dans le terme suicide. Ça veut tout dire. Est-ce que vous avez déjà vu des familles qui puissent être apaisées suite au suicide d'un de leurs proches? Moi, j'en connais aucun. Aucun. Alors que je connais des personnes qui, au contraire, ont été apaisées par la suite, pas sur le moment. Sur le moment, c'est toujours très triste, évidemment. Mais qui, après quelques jours, ont été apaisées par le départ avec une euthanasie active de leurs proches. C'est là où je mesure la différence, oui.
Évidemment, et on la mesure avec vous, Frédéric, aujourd'hui, c'est indéniable.
Je ne sais pas du coup ce qui va se décider, mais je fais confiance à Lise Magnier, parce que je sais que c'est une femme qui est très engagée, et je sais que c'est un sujet qui lui tient à cœur. Voilà.
Bon, après, c'est important de savoir qu'il y a des gens qui portent ce combat. Oui. Maintenant, il faut du résultat, voilà. Frédéric. Vous attendez, c'est ce que beaucoup d'autres personnes, vous l'avez dit, beaucoup d'autres malades sûrement attendent, famille.
Pas la seule du tout, vous savez. Et en fait, je ne suis pas la seule à souhaiter mourir en pleine conscience et à souhaiter une belle mort. Et c'est vrai que les patients qui, comme moi, demandent à partir de cette manière, ils se disent, au moins, on est serein et on aura une belle mort. C'est important de le dire.
Oui. Et vous disiez votre soulagement à l'acceptation du docteur qui vous a accueilli en Belgique.
Ça a été immédiat. Et vous savez, mon mari qui m'accompagnait, pour lui, c'était très dur de venir avec moi à Liège. Le pauvre, on aurait pu croire au début que je l'amenais à l'abattoir. Il ne savait pas trop ce qu'il attendait. Et puis, lui, c'est vraiment le chirurgien. En plus, il est chirurgien orthopédique. C'est extrêmement cartésien. Enfin, il n'y a pas... L'à-peu-près n'existe pas en orthopédie. C'est quelque chose de très carré. Et quand nous sommes sortis de notre entretien avec le professeur Dama, qui a duré 50 minutes quand même, on est sortis de là. Et mon époux m'a dit, écoute Frédéric, c'est incroyable, mais je me sens mieux. En fait, ce médecin qui est pareil, d'une douceur, qui est à l'écoute, qui est plein d'empathie, a su nous rassurer tous les deux. Pas de la même manière. Moi, il m'a rassurée en me disant, écoutez, je suis d'accord. Et il a su rassurer mon époux en lui expliquant pourquoi il avait décidé de m'aider et comment il allait faire ça. Et ça, je crois, ça a beaucoup, beaucoup rassuré mon mari. Oui, c'est vrai. Vous savez, en plus, le professeur Dama, c'est pour dire que ce n'est pas si loin comme spécialité, il est chef de service d'un service de soins palliatifs. D'accord. C'est pas un illuminé, Et je vais vous dire, on le voit, il est extrêmement posé. Et d'ailleurs, il a été reçu et auditionné de nombreuses fois par Olivier Véran, qui est même venu le voir à Liège quand il était ministre de la Santé, parce que les ministres de la Santé qui se sont succédés en France se disent, il faut peut-être qu'on regarde les modèles que nous avons autour de nous. Et là, je trouve que la Belgique s'est égalisée quand même depuis maintenant 2002.
Oui, 2002, c'est, ouais, c'est
donc
ce
ça
que,
fait quand ouais. même 22 ans.
Oui.
Mais maintenant c'est que c'est légal, c'est pas rien. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et il ne faut pas croire que parce que c'est légalisé, on en fait à tout va, mais pas du tout,
oui,
pas
bien
du
sûr.
Tout. Des fois, vous savez, on a l'impression qu'on a affaire un peu à une image d'Épinal, où il faut grossir le tout et il faut faire peur aux gens et il faut laisser libre cours à la rumeur. Et non, ça sert à rien, pas du tout. Ce sont des gens responsables, raisonnables. Et qui déjà, je ne sais pas si le terme choisir, ce n'est pas le bon terme, mais qui permettent qu'à un certain nombre de patients de pouvoir avoir recours à ça. Voilà. Ce n'est pas des fous, hein, et voilà. Et à côté de ça, ils estiment que quand la médecine est allée au bout du bout pour aider les patients, ben, il faut les aider à partir correctement, quand ils le demandent, bien sûr.
Ben, ce sera le message de la fin de cet entretien, Frédéric. Merci en tout cas d'avoir partagé votre histoire avec
c'est
nous.
Gentil de dire ça.
On vous souhaite tout le courage
merci
et
beaucoup.
Le soutien possible dans votre démarche.
Vous savez, c'est même pas du courage que j'ai. Je suis pas courageuse, non. Ça fait partie de ma vie, je me pose même pas de questions. C'est très étrange en fait. Et je suis pas d'accord quand on me dit que je suis courageuse. Ben non, puisque j'ai peur justement de la souffrance, que ce soit tellement insupportable que je ne puisse pas faire face. Si j'étais courageuse, ben j'irais au bout du bout. C'est... Et moi, j'ai décidé d'interrompre ce processus, justement, pour ne pas avoir à vivre cette souffrance qui, pour moi, va devenir trop intense.
Mais vous allez vivre un autre chemin.
Ah oui,
Frédéric,
oui c'est sûr.
Et c'est peut-être celui-là, c'est finalement, qui vous était destiné, qui sait.
Peut-être, peut-être. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Et puis, vous voyez, finalement, ben, quand on me lance... Sur ce sujet, je suis terriblement bavarde. J'ai toujours été bavarde, mais je le suis toujours sur ce sujet-là. Oui, c'est vrai.
Merci infiniment, en tout cas. Et on espère, bien sûr, que les choses bougent très rapidement et qu'une loi digne de ce nom et digne des personnes soit votée.
J'espère de tout cœur, vraiment, pour les patients qui vont suivre. Comme je vous disais, pour moi, c'est trop tard, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est organisé, donc c'est pas grave du tout. Voilà, je vous dis au revoir et merci beaucoup.
Merci Frédéric, merci pour le beau sourire que vous nous offrez en cette fin d'émission. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.